le pape Pie XI, lorsqu'il a décrété cette fête, a demandé à ce que devant le Saint-Sacrement, le prêtre dise les litanies de la Sainte Vierge, les litanies du Sacré-Cœur, pardon, et l'acte de consécration du jour remis en Christ au roi. Nous le ferons juste après le serment, parce que je n'aurai pas le temps de faire une exposition du Saint-Sacrement après la messe, puisque je dois aller assurer la messe près de Cahors. Donc je vais vous lire les textes liturgiques pour ceux qui sont loin et qui n'ont pas de missel. Donc l'épître, c'est l'épître de Saint Paul aux Colossiens. Mes frères, rendons grâce à Dieu le Père qui nous a rendus dignes d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a arrachés à la puissance des ténèbres et nous a transplantés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, qui est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute créature, parce qu'en lui tout a été créé au ciel et sur la terre, les choses visibles et les choses invisibles, les trônes, les dominations, les principautés, les puissances, tout a été créé par lui, pour lui. Il est lui avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Et lui-même est la tête du corps de l'Église, il est le principe, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en toute chose le premier, car il a plu au Père que toute plénitude résida en lui, mais par lui de réconcilier toutes choses en lui, soit celles qui sont sur la terre, soit celles qui sont dans le ciel, en établissant la paix par le sang de sa croix en Jésus-Christ notre Seigneur. On se lève pour l'Évangile, suite du Saint-Évangile. Selon saint Jean, dans ce temps-là, Pilate dit à Jésus, « Êtes-vous le roi des Juifs ?» Jésus répondit, « Dites-vous cela de vous-même ?» Ou d'autres vous l'ont-ils dit de moi ? Pilate répondit, est-ce que je suis juif, moi ? Votre nation, les princes des prêtres, me vous ont livré à moi. Qu'avez-vous fait ? Jésus répondit, mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour que je ne fusse pas livré aux juifs. Mais mon royaume n'est point d'ici. Pilate lui dit alors, vous êtes donc roi ? Jésus répondit, vous l'avez dit, je suis roi. Voici pourquoi je suis né, pourquoi je suis venu dans le monde, pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Asseyez-vous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, on peut dire sans hésiter que la fête du Christ roi est certainement une des plus grandes fêtes de l'année liturgique est certainement une des plus importantes. Je vous l'ai déjà souvent dit, pour savoir quels sont les points de doctrine qu'il faut le plus défendre, il suffit de regarder quels sont les points de doctrine les plus attaqués par nos ennemis, surtout par l'Église de Vatican II. Et je pense, je vous l'ai déjà dit souvent, il y a deux points essentiels qui sont attaqués par tous les ennemis de l'Église. Le dogme du péché originel, c'est de nous faire croire que l'homme est bon, alors que l'homme est corrompu par le péché originel. Et le deuxième point, c'est le refus du règne social du Christ roi. Et c'est pour cela qu'il faut avoir un amour tout particulier pour cette grande fête établie par le pape Pie XI en 1925. Et il faut tout de suite répondre à une objection qu'on entend très souvent. Les gens qui nous disent, même si le baiser c'est tellement important, pourquoi a-t-on attendu jusqu'en 1925 avant de l'établir comme dogme de foi? La réponse est toute simple, parce qu'au Moyen-Âge, il n'y a même pas besoin d'établir des choses comme ça. C'était évident. Pas besoin d'expliquer à un catholique du Moyen-Âge que notre Seigneur Jésus-Christ était roi, parce que pour eux, c'était aussi évident que le nez au milieu de la figure. La deuxième objection, c'est la phrase de l'Évangile d'aujourd'hui qu'on entend aussi, objection qu'on entend très souvent, « Mon royaume n'est pas de ce monde ». Donc les gens vont vous dire, le royaume de Dieu n'est pas de ce monde, donc on ne peut pas demander à ce que notre Seigneur Jésus-Christ soit roi de la société ici-bas. Mais l'Église a toujours interprété ça de la même façon, mon royaume n'est pas de ce monde, ça veut dire le pouvoir que j'ai sur ce monde ne vient pas de ce monde. Mon pouvoir vient de Dieu, parce qu'il est fils de Dieu. Le mot important dans ce dogme, c'est le mot social, le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas simplement roi au ciel, ça ne gêne personne. Il est roi dans cette société. Et donc il y a un choix, soit nous acceptons le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ sur ce monde, c'est-à-dire le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ sur la société, parce que c'est lui qui l'a créé cette société, soit nous refusons ce règne social de la société, et comme la nature a horreur du vide, si nous refusons le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ, on va être obligé d'accepter le règne social de l'homme. Et comme l'homme sans Dieu est un loup pour l'homme, si on accepte les règnes sociales de l'homme, eh bien évidemment, ça va devenir une véritable, le monde va devenir une véritable jungle. Il suffit d'ouvrir les yeux à ce qui se passe en France aujourd'hui. On est au bord de la guerre civile. Et donc, il faut se rappeler ces choses absolument essentielles. Notre Seigneur Jésus-Christ est roi de la société. Parce qu'il est créateur et parce qu'il est rédempteur, dit le pape Pie XI. Il est roi comme créateur. J'ai déjà expliqué ces choses, mais je les répète parce que c'est très important de bien les comprendre. Il est roi comme créateur par nature. Étant créateur de tous les hommes, il est roi de tous les hommes. Là, on répond tout de suite à une autre objection qu'on entend très souvent. La royauté sociale de notre Seigneur Jésus-Christ, ça va pour les familles catholiques, mais qu'est-ce que vous faites, monsieur l'abbé, de tous les gens qui ne sont pas catholiques en France? Les gens qui pratiquent leur foi catholique, c'est une infime minorité en France aujourd'hui. Réponse, tous les hommes ont été créés par Dieu, y compris M. Macron, y compris nos amis de l'Église. Tous les hommes ont été créés par Dieu, donc tous les hommes étant créés par Dieu ont l'obligation de reconnaître Dieu comme leur roi. Enfin, notre Seigneur Jésus-Christ est également roi par droit de conquête, parce qu'il a racheté nos âmes par le prix de son sang. L'épître de Saint Paul aux Colossiens dit qu'il a amené la paix par le sang de sa croix. Et donc la rédemption n'est pas possible en dehors de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela que personne ne peut être sauvé sans notre Seigneur Jésus-Christ. Personne ne peut être sauvé sans le sacrifice de la messe. Il n'y a même pas de valeur de salut en dehors de la foi catholique, parce que la foi catholique est l'unique église qui nous donne l'accès au sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous savez que c'est les politiciens qui ont commencé à lutter de façon ouverte contre le Christ roi. Bon, ça a commencé déjà longtemps, mais c'est surtout au XIXe siècle que ça s'est développé, avec des bandits comme Gambetta, comme Georges Aurès, comme le petit Père Combes qui est un ancien séminariste, la fin du XIXe, au début du XXe siècle, avec les lois de séparation d'Église et de l'État. Les lois de séparation d'Église et de l'État d'Aristide Briand, c'était quoi? C'était tout simplement le refus du règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Et leur mot d'ordre à l'époque était toujours le même. Il sortait pratiquement dans tous leurs discours électoraux, leurs discours politiques. Le cléricalisme, voilà l'ennemi. Voilà ce qu'il disait tout le temps. Rappelez-vous ce que disait Voltaire un peu avant la Révolution française, écrasons l'infâme. L'infâme, c'était l'Église catholique. Donc les révolutionnaires ont repris le cri en changeant légèrement et en demandant la lutte contre le cléricalisme. Le cléricalisme, voilà l'ennemi. Mais nous, catholiques, ça c'est un point extrêmement important qui est difficile à comprendre pour la plupart de nos fidèles. Quel doit être notre mot d'ordre? Le mot d'ordre du catholique, surtout aujourd'hui en France, c'est tout simplement la phrase « le laïcisme, voilà l'ennemi ». Et ça, il faut le comprendre. Beaucoup de gens, par exemple, beaucoup de nos fidèles en France, voient que l'islamisme qui est en train d'envahir la France partout, est l'ennemi. Mais le laïcisme est bien plus grave que l'islamisme. Ça, très peu de nos fidèles le comprennent. Ils voient le danger de l'islam, parce que c'est absolument évident, surtout avec tous les attentats qu'il y a maintenant. Et ils ne se rendent pas compte que l'islam est tout simplement un châtiment que le bon Dieu a permis en punition du laïcisme. Le laïcisme, c'est quoi? C'est bien plus grave que l'islam, parce que le laïcisme, c'est le refus du principe de la divinité même. L'islam est une fausse religion. Mais au moins, ils adorent un Dieu, même si c'est un faux Dieu. Ils gardent le principe d'une divinité. Ils gardent aussi le principe, même si c'est un faux Dieu et une fausse religion, ils gardent le principe d'un Dieu qui a une action sur la vie politique de tous les jours. Puisque vous savez que dans l'islam, il n'y a pas de séparation entre l'Église et l'État. Et le principe en lui-même est bon. L'Église a toujours enseigné qu'il fallait une union entre l'Église et l'État. Donc même si l'islam est une fausse religion et adore un faux Dieu, on voit très bien qu'en fait le laïcisme est bien plus grave, parce que le laïcisme refuse le principe même de la divinité. Et donc d'ailleurs le laïcisme, il y a quoi? Non seulement le refus bien sûr du règne social de notre Seigneur Jésus-Christ, mais il y a le refus littéralement de toute forme d'autorité, parce que le laïcisme devient la nouvelle religion. Plusieurs membres du gouvernement l'ont d'ailleurs dit sans s'en cacher, la nouvelle religion c'est la République. Et pourquoi ils veulent cette république? Parce que cette république est justement athée. Elle est athée parce qu'elle est laïque. Et c'est ça qu'il faut arriver à comprendre. Si on ne comprend pas ça, on ne peut rien comprendre à toute la géopolitique du monde moderne. Le monde moderne, surtout en France, c'est encore plus net qu'ailleurs. Ce monde moderne, justement, est basé sur la haine du christianisme parce qu'ils ne veulent plus de l'influence de notre Seigneur Jésus-Christ sur leurs âmes. Et ceci va se traduire, je vous l'ai déjà expliqué plusieurs fois, par deux choses. Le laïcisme entraîne immédiatement deux choses, l'orgueil et la haine. La haine contre quoi? La haine, c'est la phrase de Saint de Monseigneur Gaume, la haine de toute horde dans laquelle l'homme n'est pas reconnu comme roi et Dieu tout ensemble. Donc ce n'est pas seulement la haine de Dieu et la haine de l'Église, c'est aussi la haine de l'ordre naturel. Pour cela que la République athée qui nous gouverne, la République laïque, essaie d'anéantir la famille. Parce que la famille, c'est la loi naturelle. Donc ce n'est pas simplement la haine de Dieu, c'est aussi la haine de l'Église, la haine de notre Seigneur Jésus-Christ, bien sûr, et aussi la haine de tout ordre naturel. Et pour pouvoir détruire les fondements même de l'ordre naturel, la République laïque va promouvoir la contre-nature. Souvent, les gens nous demandent, nous posent cette question, Monsieur l'abbé, comment se fait-il que la République laïque actuelle qui nous gouverne fasse tout pour justement faire surgir de terre en quelque sorte toutes ces horreurs contre-naturelles? La société de la sodomie, la société de l'homosexualité, de l'infanticide, maintenant l'infanticide est accepté en France jusqu'à pratiquement la fin du 9e mois de la vie de l'enfant dans le sein de sa mère, sous prétexte qu'on peut, pour le moindre problème psychologique, une maman peut tuer son enfant et le découper en morceaux. Pourquoi le divorce, toutes ces choses-là, c'est contre la nature même que le bon Dieu a voulu pour nous. La loi naturelle, elle est là. Et donc la loi de la République laïque, c'est une loi contre-naturelle. C'est ça qu'il faut comprendre. Et c'est résumé par les trois mots, liberté, d'égalité, de fraternité. Une fois qu'on a compris ça, on comprend beaucoup de choses. Alors, ce n'est pas simplement la haine, c'est aussi l'orgueil. L'orgueil de quoi? Pourquoi cet orgueil est lié à la haine? La haine, je vous l'ai dit, c'est la haine de toute horde voulue, non voulue, non voulue par l'homme, non acceptée par l'homme. Toute haine de toute situation, toute circonstance dans laquelle l'homme n'est pas Dieu. Et donc ceci va entraîner ipso facto l'orgueil. L'orgueil de l'homme qui se prend pour Dieu. L'homme se prenant pour Dieu, Dieu est évidemment évincé, écrabouillé. Et ça, c'est typiquement français, malheureusement. Regardez par exemple dans tous les pays de langue anglaise, influencés par le protestantisme, même si encore une fois le protestantisme est une fausse religion, vous avez quand même des présidents qui peuvent être des gens qui sont loin d'être des saints, mais qui vont finir un discours politique en disant que Dieu vous bénisse et bénisse le pays. J'aimerais bien avoir M. Macron qui ait le courage de dire ça en fin de sermon. Enfin, d'un discours électoral. Imaginez qu'un président d'Assemblée, un président de la République, cette République laïque, dise une phrase toute simple comme que Dieu vous bénisse et bénisse la France. Tout de suite, les républicains hurleront qu'il faut la séparation de l'Église et de l'État et que ça va contre le laïcisme. Le laïcisme est incompatible avec la loi naturelle. C'est ça qu'il faut comprendre. Et donc, ça sert absolument à rien de vouloir lutter contre l'invasion de l'islamisme en France, si on ne lutte pas contre les causes. Et une des causes, c'est justement la cause principale, c'est justement le laïcisme. Le laïcisme évacue Dieu, enlève Dieu de la société. Et donc c'est un appel d'air, parce qu'il y a le vide. Quand il y a un vide quelque part, ça fait un appel d'air. Et donc comme par le laïcisme, on a évacué le bon Dieu, évidemment, le démon vient prendre la place. Et va se servir de l'islam, va se servir de toutes ces horreurs qu'on voit aujourd'hui, qui ne sont que les conséquences de la laïcisation de la France. Donc le mal, c'est le laïcisme. Et ça, malheureusement, si on peut, hélas, pratiquement plus rien faire dans le pays, parce que le pays est complètement cadenassé justement par les ennemis de l'Église, qu'au moins dans nos âmes, nous ayons compris ça. C'est pour cela que le pape Pie XI, dans son encyclique, explique très bien que notre Seigneur Jésus-Christ est roi de nos intelligences, roi de nos volontés, roi de nos cœurs. Il est roi de nos intelligences pour nous rappeler qu'on ne fait pas ce qu'on veut avec notre intelligence, parce que le but de l'intelligence, l'objet de l'intelligence, c'est la découverte du vrai. Je n'ai donc pas le droit d'utiliser mon intelligence pour mettre mon intelligence au service du mal, au service du faux. Le Dieu est aussi roi de ma volonté. Et puisqu'il est roi de ma volonté, je n'ai pas le droit de faire de ma volonté ce que je veux à longueur de journée. Parce que l'objet de la volonté, c'est le bien. Et il est roi de mon cœur. Ça veut dire quoi qu'il est roi de mon cœur? D'ailleurs, je n'ai pas le droit d'utiliser mon cœur comme je veux. J'ai pas le droit d'aimer qui je veux, comme je veux, dans les circonstances que j'ai choisies moi-même. J'ai le droit d'aimer ma femme, j'ai même le devoir d'aimer mon épouse, j'ai pas le droit d'aimer l'épouse du voisin. C'est du bon sens élémentaire. Malheureusement, le bon sens a été perdu justement à cause de cette, ce laïcisme qui a absolument tout détruit. Donc il y a une espèce de choix à faire. Soit les droits de Dieu, soit les droits de l'homme. Mais les droits de l'homme et les droits de Dieu sont incompatibles, dans le sens que les droits de l'homme, tels qu'ils sont vus, corrigés par la lumière de la République, depuis 1789, s'oppose aux droits de Dieu. C'est ce qu'ont dit tous les papes qui ont condamné la Déclaration des droits de l'homme. Il ne faut pas oublier que la Déclaration des droits de l'homme a été solennellement condamnée par le pape Pie VII, même Pie VI, si mes souvenirs sont exacts. Donc déjà, avant l'arrivée de Napoléon Ier, il a expliqué très bien que la Déclaration des droits de l'homme n'est rien d'autre que la négation formelle de la Déclaration des droits de Dieu. C'est quoi la déclaration des droits de Dieu? C'est les 10 commandements. Donc les droits de l'homme, c'est la négation des 10 commandements. Les 10 commandements, c'est la loi naturelle. Donc si j'élimine la loi naturelle, évidemment, on tombe dans la contre-nature et c'est ce qui se passe aujourd'hui. La contre-nature, c'est gravissime. Pourquoi? Parce que la contre-nature va tordre les racines. Quand on coupe un arbre, on va éliminer un chêne, on coupe le chêne au ras du sol. Il n'y a plus de chêne. Il y a encore les racines qui sont là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec un peu de chance, il y a des petits rejetons qui vont sortir de la souche qui est enterrée et qu'on a la chance d'avoir de nouveau un chêne. Et si on arrache les racines, il n'y a plus aucune chance. Et c'est exactement ce que fait la Révolution avec le laïcisme, d'arracher les racines même du christianisme. Et on le voit très bien comment aujourd'hui, de plus en plus, vous allez voir qu'ils vont trouver maintenant le moyen, surtout avec le progrès de l'islam, de fermer, d'éliminer, d'anéantir, de casser, d'éliminer même toutes les églises, les bâtiments des églises, parce que les bâtiments d'église rappellent le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Je ne sais plus quel était le révolutionnaire qui avait dit, chaque fois que j'entends une cloche qui sonne, il était à Paris, chaque fois que j'entends les cloches qui sonnent à Paris, je me rappelle que ce pays a été un pays catholique. Donc il faut supprimer toutes les cloches. Ça sera remplacé par l'appel du muezzin. Et on ne l'aura pas volé. On ne l'aura pas volé, pourquoi? Parce que précisément, on a éliminé notre Seigneur Jésus-Christ. On a éliminé notre doux sauveur pour mettre à la place quelqu'un qui nous maintient en situation d'esclavage. Nous sommes complètement fous. Alors qu'au moins dans notre cœur, qu'au moins dans nos familles, qu'au moins dans nos cercles d'influence, nous ayons les idées droites là-dessus. Nous comprenions la nécessité du laïcisme. C'est un drame pour moi d'entendre parfois des catholiques de tradition qui me sortent qu'il faut la séparation de l'Église et de l'État, qui ne se rendent même pas compte que notre Seigneur Jésus-Christ, parce que précisément il est Dieu, il veut avoir une influence dans les lois d'État, précisément pour lutter contre toutes ces horreurs contre nature qui se répandent partout. C'est pas pour rien que l'Église catholique a précisément placé ces deux vices contre nature de l'avortement, meurtre de l'enfant dans le sein de sa mère et de la sodomie, toutes les horreurs homosexuelles, parmi les péchés qui crient vengeance contre Dieu. Ça crie vengeance contre Dieu, pourquoi? Ça crie vengeance contre Dieu parce que c'est la suppression de la loi naturelle, donc de l'auteur de la loi naturelle. Alors qu'est-ce qu'il faut contre ça? Eh bien, une autre phrase qui me semble très importante, c'est de comprendre et réaliser que la révolution, c'est d'abord la haine de toute forme de vie intérieure. On ne peut pas être contre-révolutionnaire sans refaire une vie intérieure. Le laïcisme républicain détruit l'intelligence. Il faut le voir, il suffit de voir ce qui se passe en France actuellement. On voit très bien comment le niveau intellectuel devient de plus en plus bas, les Français deviennent de plus en plus bêtes. Il n'y a pas d'autre mot à utiliser. Pourquoi? Parce qu'ils ne pensent plus qu'aux choses matérielles, ils oublient complètement qu'ils ont une âme à sauver. Et donc, la meilleure façon de lutter contre ce laïcisme, c'est de comprendre l'importance d'une vie intérieure. avoir le temps de penser aux choses importantes, de réaliser que j'ai été créé, non pas pour faire ce que je veux, non pas pour utiliser comme je veux mon intelligence, ma volonté et mon cœur, mais que j'ai été créé pour louer, honorer, servir Dieu. Et donc suivre la loi naturelle. Et faire entrer notre Seigneur Jésus-Christ dans mon âme. Et si je ne fais pas rentrer notre Seigneur Jésus-Christ dans mon âme, c'est quelqu'un d'autre qui va venir prendre la place. C'est quelqu'un d'autre qui vient prendre la place. C'est évidemment le démon lui-même. Donc il faut cette vie intérieure. D'où l'importance pour ceux, tous ceux qui ont fait les retraites, tous ici, vous avez fait la retraite, comprendre l'importance de la méditation quotidienne. Mais qui l'a fait? Combien de personnes maintiennent la méditation quotidienne? Qu'est-ce que c'est que la méditation quotidienne? C'est la vie intérieure tous les jours. C'est l'équivalent, si vous voyez quelqu'un qui doit charger un instrument électronique, il faut qu'il soit chargé. Mais tous les jours, il faut qu'il le branche sur une prise de courant pour charger la batterie. Imaginons que cette personne se dise, moi j'ai pas le temps de brancher mon appareil sur la prise de courant, donc je la branche plus. Mais qu'est-ce qui va se passer? La batterie va se vider et l'appareil sera incapable d'être utilisé à bon escient parce qu'il n'y aura plus de batterie. Un catholique qui ne fait pas sa méditation tous les jours, c'est quelqu'un qui refuse de charger sa batterie spirituelle. Évidemment, la batterie spirituelle va se retrouver à plat et on ne pourra plus utiliser notre âme normalement. Voilà pourquoi nous avons besoin impérativement, je sais bien que ce n'est pas facile, de trouver le temps de méditer tous les jours. C'est indispensable, bien sûr, pour le prêtre. Le Seigneur Lefebvre demandait, est-ce que ces prêtres aient une heure de méditation tous les jours? C'est absolument indispensable pour nous, mais c'est aussi indispensable pour les fidèles. Pas une heure, mais au moins un quart d'heure, 20 minutes de méditation tous les jours pour s'arrêter et penser aux choses importantes. Je suis enfant de Dieu par mon baptême. J'ai donc un roi au-dessus de moi qui a le droit de me donner un mode d'emploi pour mon âme. Voilà, mes bien chers frères, ce qu'il faut demander. Et à ce moment-là, si nous avons une vie intérieure, notre âme va devenir comme un château fort, littéralement. Comme un château fort, nous serons protégés dans le donjon des châteaux forts. Il y a en plus autour du donjon une grande muraille de protection. Et cette muraille de protection nous protégera contre les assauts du démon. Voilà ce qu'il nous faut. Voilà ce qu'il nous faut comprendre, mes bien chers frères. Or, prenons bien garde de garder ce château de protection, cette muraille de protection autour de nos âmes. Que notre âme devienne un château fort. Le château fort, c'était pour protéger le royaume. C'est le principe de la protection du royaume. Château fort pour notre roi. Que notre roi soit vraiment chez lui, dans notre château, à savoir dans notre âme. Et allons-nous nous y réfugier dans le Moyen-Âge, quand il y avait des attaques de barbares, tous les gens de la région venaient se précipiter au château fort pour être protégés par les murailles du château fort, parce que le rôle du seigneur, qui représentait la puissance royale, c'était justement de protéger les paysans qui, à ce moment-là, venaient penser à sauver leur vie, sauver leurs animaux. Voilà ce qu'il nous faut faire. Et il faut rentrer dans ce château. Il faut se précipiter. Comment on rentre dans un château? Pour entrer dans un château, on passe par le pont-levis. C'est comme ça que ça se passait au Moyen-Âge. Un pont-levis qui est abaissé, qui se relève lorsque les attaques des barbares arrivent. Il se lève pour laisser passer les gens. Et quel est le pont-levis qui nous donne accès littéralement au château? C'est être Sainte Vierge Marie. Un peu comme ça, imaginez, avec la Sainte Vierge, un peu comme le pont-levis qui me permet de rentrer dans le château de mon Dieu, de mon roi, de mon Seigneur, de mon Maître, qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Et s'il n'y a pas de pont-levis, on ne peut pas passer. Il y a des douves qui nous empêchent de passer, il y a de l'eau partout, on ne peut pas passer. Donc il faut utiliser le pont, ce pont, c'est notre Sainte Vierge Marie. Elle est celle qui fait le pont entre Dieu, son Fils, et nous. Voilà ce qu'il faut comprendre. Alors demandons à notre Sainte Vierge Marie de nous aider à comprendre toutes ces choses magnifiques. Pour ceux qui ont le temps, je vous conseille beaucoup de lire l'encyclique Quas Primas, qui est l'encyclique que le pape Pie XI a publié en 1925, décembre 1925, justement pour établir la fête du Christ roi. C'est une encyclique que vous pouvez avoir facilement sur Internet. Elle est relativement simple, même si les encycliques étaient en soi destinées aux évêques. Elle est simple, vous pouvez parfaitement la comprendre. Lisez-la pour vous remettre cette magnifique doctrine dans votre âme. Monseigneur Lefebvre nous a souvent parlé de ces choses-là. Il nous avait dit, il nous expliquait que lorsqu'il était séminariste, lorsque le pape Pie XI a publié en 1925 cette lettre doctrinale, Quas Primas sur le Christ roi. Alors demandons au bon Dieu que notre Seigneur Jésus-Christ soit vraiment le roi de nos âmes, qu'il ait la toute-puissance sur notre âme, qu'il ne soit pas simplement roi de nos âmes par nom, qui soit réellement, psychologiquement, spirituellement, qui soit le roi de nos âmes, qui soit le roi de mon intelligence, qui soit le roi de ma volonté, qui soit le roi de mon cœur, qui soit le roi de ma famille, qui soit le roi de tout ce que je fais, parce que je veux un jour pouvoir, avec la grâce du bon Dieu et l'aide de notre Sainte Vierge Marie, le posséder pour toujours au ciel. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.